des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pour parler à Philippe-Vincent Foisy, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO.
Cube Radio.
Allons tout de suite en Ukraine voir ce qui se passe sur le terrain. Anthony Lebos, reporter pour BFM TV, qui est un envoyé spécial pour cette chaîne française de nouvelles en continu et sur place. Anthony, bonjour.
Bonjour.
Où êtes-vous en ce moment et de quoi ça a l'air, là?
Alors là, je suis en plein centre-ville de Kiev. Écoutez, ce qui m'a moins frappé dès le début, c'est que ça ressemblait un peu à une ville d'avant-guerre. C'est-à-dire que les métros marchent, il y a beaucoup de circulation de voitures, il y a beaucoup de monde dehors, les tramways fonctionnent. Ça ressemble à ça, même si plusieurs fois par jour, on entend encore ces sirènes d'alerte à la bombe. Il faut savoir qu'à Kiev, il n'y a pas eu de bombardement depuis 2 semaines. Et surtout, il n'y a plus de troupes russes du tout dans sa banlieue et au sein de Kiev même.
Vous avez rencontré pas mal de gens au cours de la dernière semaine, depuis qu'on s'est parlé.
Absolument.
Parlez-moi notamment de cette femme dont le mari est un soldat dans l'usine d'Azovstal, là, l'usine à Mariupol qui est assiégée en ce moment. Ça a dû être une rencontre assez émouvante, là.
Oui, c'est émouvant parce que c'est un peu l'actu que tout le monde regarde en ce moment. Faut savoir que l'usine Azovstal, d'abord, se situe à Mariupol. Donc Mariupol, c'est une ville qui a été élevée un peu au rang de martyr de cette guerre. Et il y a environ 1 millier de soldats ukrainiens qui sont toujours retranchés à l'intérieur de cette usine et qui doivent subir tous les jours plein de bombardements de la part des armées russes. Faut savoir que l'armée russe aussi bloque les sorties de secours. Donc tout ce qu'ils espèrent, c'est qu'il n'y ait plus personne qui reste en vie à l'intérieur de cette usine. Et donc nous, on a rencontré Olga. Olga, elle a 23 ans, elle venait tout juste de se marier avec Nicolas, Nicolas qui a 24 ans. Et Nicolas, c'est un combattant d'Azov. Et tout ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a perdu contact avec lui depuis 2 semaines. Elle ne sait même pas si elle est en vie, s'il est en vie ou même s'il est en bonne santé. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il a perdu 20 kilos, qu'il y a des amputations qui sont sans anesthésie, qu'il n'y a plus de médicaments pour soigner les soldats et qu'ils sont parfois obligés de se soigner tout seuls, sans anesthésie, qu'ils n'ont même plus de nourriture pour se nourrir. Situation très délicate pour elle, et évidemment tout ce qu'elle espère c'est qu'il y ait des évacuations pour évacuer ses soldats blessés. Et ce qui nous a particulièrement touché dans son témoignage à Olga, c'est qu'en fait, chaque jour, elle lui écrit des messages. Et ces derniers messages sont malheureusement restés sans réponse. Et parfois, elle écrit quelques mots sur un journal intime pour lui dire à quel point elle l'aime et à quel point elle lui manque.
Mmh. Puis vous avez aussi rencontré un homme, la famille a été séquestrée par des Russes, là.
Absolument, cet homme c'est Vitaly. Vitaly, on l'a rencontré jeudi dernier. En fait, si vous voulez, on s'est rendu dans la banlieue de Kiev, dans un petit village qui s'appelle Andrivka, c'est à 50 km de Kiev. Et ce village a été occupé pendant 34 jours. 34 jours occupé par les Russes, où les Russes ont pillé, torturé, séquestré. Il y a même des histoires assez macabres de viols de mères et de filles violées par plusieurs soldats russes plusieurs fois par nuit. Et en fait, on a rencontré Vitaly. Vitaly, lui, était recherché par les Russes, donc il avait fui avant l'occupation. Mais sa famille est restée et elle a été séquestrée pendant 8 jours avec des soldats russes qui ont un peu transformé leur maison en base de commandement. Et à l'intérieur, ces soldats vivaient avec la famille. Donc, ils violentaient parfois la fille de Vitaly. Ils insultaient et agressaient la femme de Vitaly pour qu'elle soit agressive et pour avoir une sorte de justification pour la tuer. Et puis surtout, ce qui était assez frappant dans son témoignage, c'est qu'il nous expliquait que le jour, les Russes étaient en train de torturer des captifs ukrainiens dans la cave de Vitaly. Et puis le soir, ils profitaient de son sauna. Qu'ils ont détruit ensuite en quittant les lieux.
Mais c'est quand même terrible d'entendre tous ces témoignages-là. Je présume de voir
terrible.
Des femmes, par exemple, dont le mari a été tué. Comment aujourd'hui...
On peut en parler d'ailleurs.
Oui, mais justement, parlez-moi-en. Puis comment ils font aujourd'hui pour continuer de vivre, ces gens-là?
Mais ils sont déjà morts intérieurement, en fait. Quand on écoute Tatiana nous dire qu'un jour, les Russes se sont introduits chez elle, qu'ils ont pointé leurs armes sur sa tête et la tête de son mari, qu'ils n'arrêtaient pas d'affirmer que son mari était un nazi, qu'ils l'ont enlevé ensuite et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui pendant 4 jours, et qu'elle a découvert ensuite son corps mort, ligoté à terre, avec une balle dans la tête derrière la tête de son mari. Elle nous expliquait, et je m'excuse pour les détails macabres, mais qu'il y avait du sang qui sortait des oreilles et du nez de son mari. Il fallait juste regarder son visage et ses larmes et son regard pour se rendre compte qu'elle était morte à l'intérieur. C'est impossible de revivre après ce drame. Nous, on a rencontré Tatiana en plus dans sa maison bombardée. Donc, qu'est-ce qu'elle pouvait faire à part simplement balayer quelques débris et récupérer des vivres et des produits de première nécessité apportés par des bénévoles ? Rien du tout. Sa vie est brisée, elle nous le raconte. Et ça, c'est des rencontres qui vous marquent et qui vous touchent énormément. On ne peut pas s'empêcher de pleurer dans ce genre de situation. Et on enlève notre casquette de journaliste et on fait tout simplement preuve d'humanité et d'empathie vis-à-vis de ces gens qui ont littéralement tout perdu.
Oui, parce qu'il y a des témoignages comme ça, il y en a des milliers. On va en entendre des milliers partout au pays.
Oui, des milliers partout au pays. Et d'ailleurs, je précise une information. Parce que là, on parle aussi de crimes de guerre. Et c'est très important ce qui va se passer la semaine prochaine, d'ailleurs cette semaine, puisque mercredi, il y aura à Kiev le premier procès pour crime de guerre qui va du coup concerner un soldat russe qui a 21 ans, qui s'appelle Vadim Chichimarin et qui est accusé d'avoir tiré avec une Kalachnikov sur un homme de 62 ans qui n'était pas armé. Et ce jour, ce mercredi 18 mai, il sera sur le banc des accusés, donc il sera présent dans un tribunal de Kiev pour être jugé par la justice ukrainienne.
Ouais, ça va être un procès à suivre de très près. Qu'est-ce qu'on sait de façon plus générale sur ce qui se passe? On a vu récemment des soldats ukrainiens franchir, ou du moins arriver à la frontière russe près de Kharkiv. On voit dans le Donbass que l'intensification des combats se poursuit là, dans l'est du pays. D'où vous êtes en ce moment dans la capitale? Comment on voit sur la carte ce qui est en train de se produire là?
Alors, il y a trois points saillants que je peux vous expliquer. D'abord, au nord-est, donc vous avez parlé de Kharkiv. Kharkiv, elle a été un peu libérée par les troupes ukrainiennes parce qu'en fait, les autorités ukrainiennes parlent d'une sorte de contre-offensive qui a eu lieu grâce à un bataillon ukrainien qui a repoussé les Russes à la frontière nord entre les deux pays. Ensuite, on parle du Donbass. Donc là, c'est plus à l'est. Le Donbass, c'est là où les troupes russes ont concentré leurs efforts. Et selon le président Volodymyr Zelensky, la situation est toujours très délicate. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup d'intensité dans les combats, mais les Russes n'arrivent pas trop à avancer. Un exemple, par exemple, à la région de Louhansk, donc c'est le plus à l'est en Ukraine, bah, ils ont du mal à franchir une rivière qui leur permettrait en fait de ravitailler leurs troupes, ni même de gagner quelques mètres de terrain. Ensuite, on peut parler du sud, parce que ce matin, on a appris qu'il y a eu de nouveaux bombardements, notamment dans la région d'Odessa et dans la ville de Mykolaïv. Et là, dans le sud, il faut savoir qu'il y a une menace maritime russe qui s'intensifie selon les autorités ukrainiennes. Et d'ailleurs, Zelensky, dans une vidéo hier, une sorte de point informel sur la situation, a dit qu'il s'attendait à une intensification des mouvements de l'armée russe dans les régions du sud. Donc, c'est pas prêt de se terminer.
Puis, avec ce qui se passe du côté de la Finlande, de la Suède, qui pourrait rejoindre l'OTAN, sentez-vous, du côté de l'Ukraine, une crainte, une certaine, je vais pas mettre le mot jalousie, mais une certaine, disons, on aurait aimé ça du côté de l'Ukraine, faire partie de l'OTAN, être protégé par ce bouclier-là, de cette alliance militaire-là. Comment on réagit du côté de l'Ukraine quand on voit que la Finlande et la Suède pourraient rejoindre l'alliance militaire?
Il y a une forme de jalousie, oui, mais en même temps, ils sont aussi confiants qu'ils sont dans une situation où ils savent que s'ils rejoignent l'OTAN, il y aura encore une escalade des tensions. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on reproche souvent, en tout cas je parle des habitants de Kiev avec qui on a pu discuter, mais on reproche à Emmanuel Macron d'appeler beaucoup trop Vladimir Poutine, de parler trop avec lui et finalement de ne rien obtenir. C'est d'ailleurs ce qu'avait répété Volodymyr Zelensky dans une interview qu'il avait donnée à une chaîne italienne. Il avait dit, mais il ne faut pas chercher de porte de sortie à la Russie et Macron le fait en vain. Il y a une forme de critique de l'action diplomatique aussi de la France ici à Kiev. Et concernant l'OTAN, oui, il y a une forme de jalousie parce qu'ils voient bien que la Finlande, la Suède voient leur processus accéléré et que eux, ça reste un petit peu en stand-by, y compris pour leur adhésion dans l'UE. Mais ils savent très bien aussi que si ça s'accélère, ça peut aussi occasionner une escalade du conflit.
Non, puis un petit mot sur l'Eurovision et l'Ukraine qui a gagné le grand concours. Pour les Européens, ça veut dire quoi? Parce que nous, au Canada, bon, l'Eurovision, c'est loin, là, mais en Europe, c'est gros, là.
Bah en Europe, c'est gros, c'est une sorte de Coupe d'Europe de la musique, c'est un peu ça, on peut essayer de le comparer comme ça. Et pour les Européens, bon, il faut dire aussi que l'Ukraine était la grande favorite de cette Eurovision parce qu'on sentait que c'était aussi un acte politique d'avoir l'Ukraine gagnante. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, les habitants de Kiev et les Ukrainiens le savent très bien, ils sont très conscients, ouais. C'est une victoire politique aussi un petit peu culturelle, mais il faut aussi écouter les paroles de la chanson qui sont quand même, voilà... prône la solidarité et la résistance pour comprendre aussi que c'est un acte politiques rédhibitoires. Ce qui est sûr, c'est que ici à Kiev, ça a été une sorte de bouffée d'oxygène. Mais on est passé très vite à autre chose. Les Ukrainiens nous disent, bon, on a certes gagné l'Eurovision, mais maintenant on attend qu'une chose, c'est de gagner la guerre.
Aïe, 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 Anthony Lebos, merci beaucoup d'être sur le terrain, de faire le travail que vous faites et surtout de nous permettre de mieux comprendre, de partager ces témoignages-là avec nous. Je rappelle que vous êtes reporter pour BFM TV. Si vous voulez voir ce qui se passe, ils ont des envoyés spéciaux en Ukraine en ce moment. Vous pouvez suivre aussi Anthony sur Twitter. Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous. À bientôt.
Salut Anthony. Donc, on regarde aussi ce qui va se passer du point de vue économique. Là, on apprend dans les dernières minutes que McDonald's pourrait vendre toutes ses franchises en Russie et quitter le marché russe au cours des prochains jours.